S&P 500, 87% ont dépassé les attentes du marché en termes de bénéfices par action. En France, la saison a également bien démarré, puis rapidement du côté des valeurs ce lundi. ArcelorMittal est en hausse à la clôture, plus 5,7%. Le titre profite de l'accélération de l'activité manufacturière en zone euro au mois d'avril. C'était Céline Pentax, investir pour RFI.
Un mot enfin de la journée mondiale pour la liberté de la presse. À cette occasion, les proches de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon réclament un débat public au Parlement sur le secret défense qui entrave, selon eux, l'enquête sur la mort des deux journalistes de RFI au Mali en 2013.
Radio G. www.radio-g.fr.
Chères auditrices, bonsoir et bienvenue à l'écoute de l'oreille curieuse. Chaque soir, vous et moi, on a un rendez-vous, on se retrouve pour parler des actualités culturelles et locales et partager quelques douceurs de la vie. J'espère que vous avez passé un très beau week-end, que cette émission sera lumineuse. Nous voici lundi, nous sommes au début d'une nouvelle semaine radiophonique. Et un lundi sur deux, c'est Émilie qui nous régale avec son croque-philo. Ce soir, on retrouve une de ses premières chroniques qui nous invitait à penser la voix. De voix, il sera aussi question dans cette émission, et plus particulièrement de celle d'un homme qui chante. C'est Jean-Louis Bergère qui est à l'honneur ce soir. Jean-Louis Bergère, c'est une voix et des mots bien connus à Angers et en bord de Loire. Et peut-être comme vous, j'ai été surprise et triste aussi d'apprendre son décès, survenu lundi dernier, le 26 avril. À 60 ans, Jean-Louis Bergère nous laisse 4 albums, Une définition du temps, Au lit d'herbe rouge, Demain de nuit de jour et Ce qui demeure. Alors je souhaitais vous faire réentendre Jean-Louis Bergère, même si, à vrai dire, je ne le connaissais pas si bien, en tout cas pas personnellement. Mais ce qui m'a frappée et que je retiens, après l'avoir rencontré pour la radio, c'est beaucoup de douceur et de gentillesse, une attention à l'autre, aux mots bien sûr, et à la création, une attention très sincère. Ce sont des émotions qui me restent, et j'avais envie de rendre hommage à la personnalité de Jean-Louis Bergère, engagé à sa façon, poétiquement. Je vous propose donc de réécouter un entretien réalisé en mars 2019. C'était juste avant la sortie de son 4e et dernier album, Ce qui demeure. Nous étions dans un entretien, dans une émission consacrée au THV et réalisée avec Amélie. C'était déjà moi, Annelie, derrière le micro et les manettes. J'ai quand même choisi un proverbe pour ouvrir l'émission de ce soir. Celui-ci est un proverbe du 15e siècle. Le pays est là où l'on se peut vivre. Nous avons un programme jusqu'à 18h50 et je vous propose d'ouvrir cette émission avec un titre de Jean-Louis Bergère, bien entendu, et j'ai choisi Il ne faut pas, issu de son 2e album Au lit d'herbe rouge.
Cesser d'écrire cesser d'aller, de parcourir. Il ne faut pas cesser d'écrire. Sécher, on se dit qu'encore la rosée demain matin saura rouvrir les pas de ce jeune écolier qui traversait sans regarder l'avenir dans son point de mire. Il ne faut pas passer le pont, mélanger le vin au poison. Il ne faut pas passer le pont. Il ne faut pas. Encore la tragédie a piqué le cours de sa vie dans une épineuse douleur. Il ne faut pas y revenir, il faut se taire, laisser mourir. Il ne faut pas y revenir. Il ne faut pas. Faut pas passer le pont, cesser d'aller, de parcourir, mélanger le vin au poison. Il faut se taire, laisser mourir. Il ne faut pas cesser.
Et l'oreille curieuse est consacrée ce soir au THV. Alors je suis toujours avec Amélie et nous recevons Jean-Louis Bergère. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là.
C'est moi qui vous remercie de l'invitation.
Alors Jean-Louis, tu es auteur, compositeur et interprète angevin. Hein, t'es un angevin.
Ouais.
T'es d'ici.
Ouais, je suis un natif d'ici. Ouais.
Et tu partages ton activité entre scène et écriture. Mmh. Et cette fois-ci, tu viens nous parler de ton futur projet.
Ouais, bah c'est ça. Voilà, c'est un projet, c'est un nouvel album en fait qui se prépare. Et en gros, en fait, voilà, on avait prévu la sortie officielle, on va dire, sur la scène du THV. Donc, on a déjà fait beaucoup de choses là, depuis 2 ans, en fait. On a déjà, enfin, moi, j'avais écrit bon nombre de chansons déjà pour. Pour ce projet et ce nouveau projet, puis j'ai à peu près sélectionné une douzaine de titres qu'on a commencé à travailler avec les musiciens, avec la même équipe de musiciens, avec Blaise de Sol et Hervé Moquet, puis Evelyne Chauveau. Donc sur cette base là d'un trio plus quoi. Et puis voilà, donc on a bien travaillé, je pense qu'on va présenter un beau bébé, en tout cas je l'espère. L'enregistrement est terminé là, depuis 10 jours. Donc c'est un spectacle, c'est un spectacle. Moi je suis revenu à des fondamentaux. J'ai longtemps travaillé avec de la vidéo, de la danse, enfin, voilà, avec beaucoup de choses qui étaient un peu croisées et
ouais, d'inviter d'autres artistes.
Et voilà, des choses un peu transversales aussi. Donc ouais. Ça je le garde pour des choses un peu plus un peu comme mes cartes blanches au Musée des Beaux-Arts. Mais là c'est vraiment, on a vraiment resserré le spectacle sur une formule concert.
Ouais.
Avec juste de la mise en espace, enfin voilà, juste occuper l'espace le mieux possible. Je pense que sur la scène, on va être très resserré d'ailleurs. Moi, j'ai envie de ce petit cocon là, ce petit truc douillet là où on se sent bien et quelque chose de plutôt intime. Et en même temps, je pense que ça va être par rapport à l'album précédent, c'est encore, je pense que ça s'est encore élargi au niveau des ambiances sonores. Entre l'électrique et l'acoustique toujours, mais je pense que ça va être encore un peu plus large, quoi, un peu plus épais.
Et justement, je reviens par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, t'as écrit des albums qui étaient centrés sur un thème. Mmh. Le dernier qui était sorti, donc Demain, de nuit, de jour, parlait notamment de la disparition.
C'est ça.
Et est-ce que cette fois-ci, tu retravailles sur un thème central et
Ça a été un petit peu, effectivement. Alors, à chaque fois, c'est un choix et c'est en même temps un non-choix parce qu'il y a des chansons qui arrivent et puis au bout d'un moment, je me rends compte que par rapport à l'avancée de mon travail, ça forme un corpus ou pas. Et ce qui se dégage en ce moment, là, des chansons, enfin, ça y est, c'est fait. Hein. Les chansons qui sont enregistrées, c'était plutôt autour du territoire.
D'accord.
Voilà, donc du lieu habité ou déserté, mais aussi de l'enracinement. Donc il y a des chansons là. Il y a une chanson notamment là que j'ai enregistrée que j'aurais dû écrire depuis longtemps parce qu'elle parle de mon adolescence et du moment en fait où j'ai franchi la porte chez mes parents et je suis parti. Et c'est une chanson que j'ai pas pu écrire jusque-là. Donc ça a été un petit peu le départ en fait de ce disque en fait. C'est un petit peu l'ouverture. Le territoire ouvert aussi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chansons de voyage, là, je me rends compte sur ce disque en fait. Mm. Il y a une chanson là, sur le Cosmé-Jean, il y a une chanson sur la sécession viennoise, sur Murnau, enfin sur la peinture, il y a beaucoup de choses assez croisées. Parce que le territoire aussi comme lieu de enfin comme lieu d'expression artistique, j'y crois beaucoup effectivement.
Et du coup, c'est des chansons qui parlent de toi, de ta
ça parle ouais,
de
ça
ta
parle
vie,
de ce qui me traverse en fait, effectivement. Ouais. Je suis plus c'est plus mon moi, je suis pas un raconteur d'histoire, je sais pas faire ça.
Oui, d'ailleurs, tu te qualifies pas comme ça, tu te qualifies comme un
ouais, j'essaye de traduire ce qui me traverse. Donc c'est
traducteur d'émotions, ouais, c'est ça que je cherchais.
Ouais, j'essaye de. Oui, je pense que c'est ça. Enfin, j'ai pas d'autre ambition que ça. Hein. C'est peut-être très très égo, très égocentré, mais je crois pas. Je crois que c'est quand même. Enfin, moi, je crois vraiment que l'objet artistique, il est dans toutes les disciplines. Ça ne traduit que l'émotion d'un individu par rapport à sa confrontation au monde. Enfin, je crois vraiment à ça.
Et du coup, c'est comme ça que tu écris tes textes et vraiment avec cette réflexion-là.
Oui, maintenant je me la fais plus parce qu'en avançant dans le travail. On essaye de se regarder le nombril. Alors, j'ai l'impression dans l'absolu que j'avance comme ça quand même, que je me mets jamais, par exemple, même en poésie, je travaille de la même façon, je me mets jamais à ma table de travail en me disant, aujourd'hui, je vais écrire sur ça, je sais pas faire ça du tout, quoi. Donc, il y a des périodes où j'écris pas, et puis il y a d'autres périodes où j'écris plus. Puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça vient, ou c'est là, ou c'est pas là, quoi.
Et ta façon de travailler les musiques et les mélodies, du coup, justement, comment tu procèdes, comment on arrive à justement à plaquer une musique sur des mots, sur des textes.
C'est pareil, c'est jamais la même chose au même moment. C'est des fois les textes sont là, après la musique arrive après. Des fois le tout, s'entremêle sur un instant T. Donc moi ça reste toujours quelque chose de très d'une alchimie mystérieuse et qui m'émerveille. Enfin je suis toujours je suis toujours émerveillé en fait de ces moments où tout d'un coup on a le sentiment, la sensation de tenir quelque chose, quoi. Ce que je trouve bien maintenant, c'est qu'avec la faveur peut-être de l'âge et puis aussi du travail qui avance, c'est que j'ai l'impression de mieux cerner et plus rapidement ce qui me semble pour moi, en tout cas, debout et présentable ou enregistrable ou voilà. Donc ça c'est bien.
Et on parlait d'émotions, de celles que tu veux transmettre. Est-ce que ces chansons, tu les adresses à des personnes, des personnages? Est-ce que tu les adresses à toi, à nous?
Il y a des gens il y a des personnes effectivement qui sont dans les chansons, mais la plupart du temps, elles sont pas, comment dire,
des adresses directes.
Voilà. je reste assez pudique sur sur ça, même si voilà, il y en a forcément, il y en a qui se reconnaîtront effectivement, mais c'est vrai que je nomme peu à part nommer les lieux, par exemple, ça j'aime bien, parce que par exemple Méjean, je trouve que ça sonne très très bien, c'est déjà un mot qui sonne très bien, c'est sur le cause Méjean, mais ce que j'ai vécu là dans un moment particulier chez des gens effectivement, et qui a fait que cette chanson existe, bah c'est vrai que j'ai pas nommé les gens, par contre j'ai nommé le chien, parce qu'il y avait un chien que j'aimais beaucoup et avec qui le matin je sortais. Et alors le cause Méjean, c'est le désert total, et on a vécu des choses ensemble assez fortes en fait avec ce chien, et bah, pour le coup il est rentré dans la chanson.
Est-ce que tu peux nous parler un peu du rapport au temps dans tes chansons? Est-ce que c'est une chanson qu'il faut prendre le temps d'écouter, qu'il y a peut-être un temps pour écrire aussi?
Mais,
est-ce que ça c'est quelque chose qui toi te fait partie de ton travail de création?
Le temps d'écrire, non, c'est
est-ce
ça.
Que c'est une thématique qui fait écho à
ah, le temps, oui, mais je pense que le temps traverse tout mon travail depuis le début. Le premier album s'appelait Une définition du temps. C'était vraiment quelque chose de très... Oui, je pense que c'est très inscrit. Le deuxième album était sur la géographie, le troisième sur la disparition, le quatrième sur le territoire. Il y a beaucoup de choses quand même qui se croisent et puis qui sont effectivement fixées dans un espace temporel et puis géographique, quoi. Sur notre présence en tout cas au milieu du monde. Ouais.
Et ce nouvel album, pour moi, il est très mystérieux encore, parce que j'ai pas encore entendu de titre, et j'en étais restée à le titre même de l'album est un secret. Est-ce que c'est encore le cas?
Bah, c'est pas vraiment un secret, mais je préfère, j'ai envie de garder pour moi le. je crois que la dernière émission là, que j'ai fait avec Michel, c'est pareil, il m'avait demandé, mais j'ai envie de garder un petit peu il n'y a pas de prétention dans tout ça, mais c'est pour garder vraiment les choses quand il va arriver. Je trouve qu'on est dans une époque aussi où on donne énormément de choses à plein de moments différents, et pour le coup j'ai l'impression que ça affaiblit les propos. Et alors voilà, quand je dis ça, il n'y a pas de prétention à parler plus fort ou mieux que les autres, mais j'ai envie de garder ce petit bébé un peu secret, et puis bah, quand il sera là, voilà, on présentera à ce moment-là.
Et peut-être pour finir, justement, cette scène un peu de présentation au public, de première rencontre autour de l'album, tu l'appréhendes comment ?
Ça va, je suis plutôt serein, c'est toujours un petit peu particulier. Voilà, on a dans les derniers concerts depuis quelques temps, on a glissé des chansons nouvelles quand même qu'on a un petit peu qu'on a offert au public et voir un petit peu les échos qu'elles pouvaient recevoir. Donc je suis plutôt assez confiant. Et puis en fait je me dis aussi que ben voilà, ça, enfin je sais pas comment dire ça, mais ça sera ça et ça sera pas autre chose, donc de toute façon je vais plutôt dans cette optique là quoi. Il y a pas de, comment dire, c'est pas une histoire de compromission quoi que ce soit, mais j'ai l'impression vraiment maintenant d'être plus en phase avec moi aussi dans mon travail, de vraiment toucher à des choses plus importantes pour moi, hein. Et pour le coup ça me donne plutôt une confiance raisonnée, quoi. Enfin, voilà.
Ben merci Jean-Louis.
Ben c'est moi qui remercie, et au passage je remercie le THV et la Bouche d'Air aussi pour ces accueils, parce que c'est vraiment précieux dans le développement d'un travail et sur du long terme. Donc ça, c'est le THV, c'est depuis
plus
10 ans quoi, à peu près, que Brigitte, enfin ça a commencé avec Michel Auger il y a longtemps déjà,
ouais.
Et puis après Brigitte et maintenant Gurval, donc Reto, donc c'est précieux, merci.
Bah, merci à toi d'être venu nous retrouver.
voyage en silence, cigale.
C'était L'homme qui chante de Jean-Louis Bergère. Vous pouvez maintenant retrouver Jean-Louis Bergère dans ses quatre albums. Le titre qu'on vient d'écouter est issu de Ceux qui demeurent, le dernier album qui est paru en 2019. Vous écoutez L'oreille curieuse, toujours sur le 101.5 FM de Radio G. Et après cet hommage à Jean-Louis Bergère, notre chanteur local, on va parler de philosophie en retrouvant Émilie et son croque-philo.
Bonjour à tous, bonjour Annie.
Bonjour Émilie.
Vous qui nous rejoignez, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie de retrouver ceux qui parmi vous ont accepté mon invitation à philosopher lancée ici même sur Radio G il y a 2 semaines. Aujourd'hui pour ce deuxième croque-philo, on va s'intéresser à la voix, ses sons, ses sens et à tout ce que la voix a à nous dire. C'est vrai qu'ici dans le studio et pour vous qui nous écoutez en voiture, à la maison, au travail, on est bien placé pour aborder ce sujet bien calé là de chaque côté de la radio. À la radio, la voix est le fil qui nous relie aux annonces, aux chansons, à l'information, à l'actualité. Mais la voix, c'est aussi pour chacun le fil de nos souvenirs, remontant parfois très loin. À l'échelle de nos existences individuelles ou collectives, le souvenir d'une voix familière, d'un être cher, disparu depuis longtemps parfois, ou celle, plus socialement partagée, d'une journaliste, d'un acteur, d'un chanteur, qui n'est parfois pas de notre génération, mais que les archives médiatiques ont su implanter dans notre mémoire collective et que l'on reconnaît au premier mot. Puis il y a les voix qu'on aime particulièrement, qui nous portent, nous enveloppent, nous séduisent, ou au contraire, celles qui nous hérissent. Annie, toi, tu as des voix que tu aimes ou d'autres qui t'insupportent ?
Oui, en tout cas, je suis très attentive quand j'écoute la radio, par exemple, à comment les personnes posent leur voix. Je pense qu'il y a des voix, oui, que...
Ouais, ça vient peut-être même une déformation professionnelle.
Oui, c'est un autre... Mais oui, il y a quand même des façons de parler des fois qui m'insupportent et d'autres qui me plaisent beaucoup, qui me touchent.
On y est souvent sensible et de façon... Général, rarement en tout cas, une voix nous laisse indifférents. Et si nous sommes sensibles au grain de la voix, La façon dont on pose la voix, c'est parce que la voix, c'est du corps. Et la matérialité de la voix a une force évocatrice qui s'impose à nos sens et qui peut, c'est selon, nous glacer, nous séduire ou faire autorité sur nous. Même dans une langue qui nous est étrangère, une voix s'inscrit durablement dans la réalité sensible, alors que les ondes semblent éphémères. D'ailleurs, la force sensible de la voix est nommée grâce à de nombreuses expressions qu'on retrouve dans la langue française. Nous évoquons une voix chargée d'émotions, une voix blanche, froide ou chaude. Aussi, au-delà des mots, nous savons entendre un sourire dans la voix de notre interlocuteur, même quand nous ne le voyons pas. C'est le cas à la radio, bien sûr, mais aussi dans nos conversations téléphoniques ou aujourd'hui dans nos heures masquées. Même si justement, aujourd'hui, il est vrai, nous remarquons que la place de l'image et de la vidéo gagne beaucoup de terrain sur la voix nue, même à la radio, où les émissions sont de plus en plus souvent filmées. Mmh. Les vidéos en ligne aussi sont quasiment toutes sous-titrées désormais. Ils sont ainsi plus lus qu'écoutés. L'idée étant de pouvoir avoir accès à l'image en tout lieu, en toutes circonstances, et on sacrifie souvent le son, particulièrement la voix. Je ne sais pas, Annie, si tu regardes parfois les vidéos sans le son.
Alors, ça arrive. J'évite. Après, c'est aussi intéressant parce que ça les rend encore plus accessibles. Mais oui, des fois, c'est. Et ça peut être étonnant de. Le son qu'on se projette, et ensuite, tu mets le son et tu regardes la vidéo, et c'est complètement différent, ouais.
Dans réécoute, ouais. Moi, je trouve qu'il y a même une certaine frustration parfois à ne pas pouvoir entendre le son et quand même avoir envie de regarder la vidéo. Et quand on la retrouve effectivement après, on peut être surpris. À l'heure où certains dénoncent le port du masque qui étoufferait justement nos voix, au sens propre comme au figuré, demandons-nous ce que la voix dit et fait de nous. Nous venons d'évoquer sa force sensible. Elle est en cela aussi un marqueur de temps, quand elle est vieillissante ou qu'elle nous vient d'une autre époque. Et elle est aussi socio-culturellement marquée par les langues et les habitudes qui la façonnent. Quand on vit seul ou qu'on est nombreux au foyer, quand on travaille dehors, on n'utilise pas sa voix de la même manière. Les habitudes, elle la façonne, car elle est un instrument, nous l'utilisons à des fins variées, mais c'est sa matérialité qui est l'outil même du travail des comédiens, des chanteurs, des journalistes, des thérapeutes, des soignants. On la chauffe, on la pose, mais elle n'est pas seulement du son, elle est aussi du sens. De quoi la voix est-elle le sens? Qu'est-ce qui lui donne du sens? Pour Jacques Derrida, en 1967, dans Grammatologie, la voix, c'est de la présence au discours. On reconnaît l'existence de la voix parce qu'elle est porteuse d'un discours. Et en quelque sorte, c'est le discours qui nous fait penser l'existence de la voix, qui lui donne du corps. Plus précisément encore, ce qui fait pour Derrida la voix essentiellement hors du discours est renvoyé souvent à de l'inarticulé, mais souvent compris comme non porteuse de sens. Pourtant, originellement, il rappelle que la voix est porteuse du sens même de l'être, de l'histoire de l'homme et de la pensée. La voix de la raison, du discours rationnel, appelé le logos en philosophie, n'est pas la seule voix articulée. Elle n'est pas la seule dont on puisse saisir du sens. Le risque, ce serait justement de ne retenir que la simple articulation qui différencierait en elle-même, dans nos représentations, l'homme et l'animal, et de réduire la voix à une parole qui signe seulement une pensée. Petite remarque d'ailleurs là-dessus, sur le lien entre les sons articulés et la nature humaine, ce qui fait que la voix est proprement humaine, on peut aller reculer encore un peu dans le temps et aller jusqu'en 1952, quand Lévi-Strauss, dans Race et Histoire, commençait à s'en prendre un peu à ce terme qui le mettait un peu en colère, le terme de barbare. Et pour lui, justement, il était important de se rappeler l'origine du mot barbare qui renvoie au son inarticulé du langage des oiseaux et des animaux en général. Et traiter l'autre de barbare, c'est le rejeter hors de l'humanité, mettre en avant son animalité parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Et cette inarticulation-là, elle est souvent péjorativement connotée, comme si elle n'était pas tout à fait humainement acceptable. Pourtant, la voix peut être inarticulée. Elle peut se jouer aussi comme d'un instrument de musique et gagner d'ailleurs par là en force de transmission d'une émotion. Elle peut gagner sa véritable portée sensible. C'est ce que l'on rencontre avec la voix des chanteuses, des chanteurs qui nous touchent justement. Et j'aimerais pour l'occasion, parce que j'aime beaucoup sa voix et son travail, et aussi parce qu'il sera sur la scène du Shabada le 24 octobre prochain, vous parler et vous faire écouter Bror Gunnar Jensen. Alors Bror Gunnar Jensen est suédois, c'est un one-man band ou un orchestre, ce qui signifie qu'il joue lui-même de tous les instruments que l'on entend dans ses morceaux. Son style est ancré dans les racines du blues, mais il emprunte des chemins folk, aux accents parfois gothiques et aux influences diverses, telles que Tom Waits ou Tina Riven. Le premier extrait que nous allons écouter se trouve sur l'album « And the Great Unknown », la partie 2 de l'album, sorti en 2017, et le morceau s'intitule « War Tuba ». On y entend le souffle de Bror Gunnar Jensen, si vous prêtez bien l'oreille. Il souffle littéralement dans le micro au début du morceau, d'une inspiration commune avec sa guitare, d'une respiration commune, pardon, avec sa guitare. C'est ensuite comme un chuintement qui s'élève, et puis sa voix qui jaillit ensuite comme un feulement animal. Dans War Tuba, il s'inspire des deux premières guerres et évoque un certain mania américain des affaires, aujourd'hui à la tête des États-Unis, je vous laisse deviner. Il s'inspire des chansons des ouvriers des années 40. Et au début du morceau, donc, c'est la voix inarticulée, justement, de Bror Gunnar Jensen qui compose la musique. Soyez attentifs, car comme le dira le philosophe Emmanuel Levinas, le souffle, c'est un son muet qui est la matière première du langage.
I don't want your money, I want your fear. I don't want the respect, they should dread my name. I don't want your land, I want your life. Send the word that it is time.
Là, on change d'ambiance, mais on va réécouter vraiment ce moment de souffle, comme tu nous le disais.
Alors, vous avez entendu, si vous avez prêté l'oreille, cet accord de la respiration et du souffle de Bror Gunnar Jensen avec sa guitare. Et on est là dans une musicalité, une puissance propre à la voix. Et pourtant, ce n'est pas tout, et ce n'est pas seulement ce que peut faire la voix. On peut, au-delà de la puissance de sa musicalité, entendre aussi la voix comme un instrument de philosophie en soi. Car la philosophie est une science de l'oralité, où la voix, au-delà du discours qu'elle porte, souligne notre rapport au temps et à la mémoire. Platon, d'ailleurs, défend l'oralité face à l'écriture dans le Phèdre, son dialogue consacré à l'amour et à l'art de l'enseignement oral. Enseignement oral que Platon a d'ailleurs reçu de son maître Socrate. L'écriture, elle, est muette et figée pour Platon. Il lui manque la pensée qui s'établit, elle, dans le dialogue. D'ailleurs, pas besoin de disposer du savoir ou de certitude pour bien parler, mais d'avoir le souci de la vérité plus que le souci de convaincre ou de persuader l'autre. Ainsi, la parole devient un art du dialogue. Dialogue qui est une ouverture à l'autre grâce à la voix. Et la musicalité de la voix lui permet justement de développer cette, forme d'évasion hors de la coquille de soie. Et c'est ce que Lévinas, Emmanuel Lévinas, entend quand il dit que grâce aux différents timbres, à la musicalité de la voix, on peut croiser du son et du sens, du corps physique, et rencontrer la transcendance. C'est une ouverture à l'autre, car même quand on ne le voit pas, sa voix nous raconte son visage et nous fait reconnaître son humanité. Cette ouverture réciproque, dans le dialogue, est d'ailleurs, pour Lévinas, la condition de toute morale possible. Alors n'oublions pas nos visages, écoutons-nous, écoutons chanter, écoutons la radio, chantons, racontons-nous des histoires, écoutons des livres audio, allons au théâtre ou à des conférences, parlons-nous en chair, en os ou au téléphone, et parfois même, pour ne rien dire, écoutons notre humanité. Et là, maintenant, qu'avez-vous envie? Quelle voix avez-vous envie d'entendre et d'écouter? Annie, une voix.
Ça me fait penser à plein de voix, des voix d'amis, des voix de famille, ouais, des proches un peu.
Les voix familières. Alors, je vous propose, pour ma part, de terminer en écoutant un deuxième extrait d'une chanson de Bjarne Gunnar Jensen, de son album sorti cette fois en 2014, Moan Snake Moan, qui signifie littéralement le gémissement du serpent. Dans ce morceau, on entend la voix de Bjarne Gunnar Jensen, plus tortueuse et complexe ici, proche du sifflement parfois. Mais ce qui frappe, c'est la force de l'évocation cinématographique de sa voix et de sa musique. Elle donne vraiment à voir des images, et c'est toute l'Amérique des années 40 qui vibre et dont l'histoire se dévoile et se raconte en noir et blanc. Je vous retrouve dans 15 jours et nous parlerons de la philosophie et des femmes.
Permettre de conclure cette émission, même si c'est sur une chanson. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle Oreille Curieuse. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Radio G, bien sûr, www.radio-g.fr. À la page de l'émission, il y aura aussi toutes les informations sur ce dont nous avons parlé ce soir. On se retrouve demain à 18h10 et nous serons avec un de nos partenaires que je suis très heureuse de retrouver. Nous serons avec le Shabada, pour un projet avec les lycéens du lycée Joachim du Bellay et le groupe Arcania. Voici, je vous ai tout dit, vous savez vraiment tout. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.
Radio G. 101.5 FM.
What the fuck do you really think of me when you look at me? What do you really see? I mean, who the fuck do you really think I am when you talk to me like I'm your friend Diana? I'm not Diana. What the fuck do you even really care? I know you talk a lot like you really care, but you're so confusing. I'm gonna do it like this.
I'm not Diana.
I'm gonna do it like this. What the fuck do you really think of me when you look at me? What do you really see? I mean, who the fuck do you really think I am when you talk to me like I'm your friend Diana? I'm not Diana. What the fuck do you even really care? You know you act a lot like you're really scared, and it's so confusing. Stay with me over there. Maybe we can get somewhere. I know I'm not Diana, but just come with me. Come away with me. Come away with me. Without you, it ain't okay. Without you, I'm not okay. 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 I'm not Diana. I got caught in the rain. I kept come and you would let me in, but I waited for hours.
For a savior to bless what you have done, but you were talking to a demon.
Who said I don't trust in them? Do what I say, just pretend. You don't know what to believe in.
Cause if the weak are dependent, then we can't defend, and then out comes a demon.
scientist, me, my son. Yes, I am talking to a demon. Who said I don't trust in them? Do what I say, just pretend. You don't know what to believe in. Cause if the weak are dependent, then we can't defend them. Then out comes a demon.
Radio G 101.5 FM.